c'est la fête des mamans. Et je vous souhaite une bonne fête. Peut-être que vous êtes un peu comme moi, un peu sceptique sur la profondeur de cette fête, parce qu'il y a quand même des enjeux commerciaux derrière qui nous dépassent par moments. Cela dit, ce que nous disent les Écritures, et c'est bon de le rappeler, c'est dans les 10 commandements, mais il nous est dit « Honore ton père et ta mère ». Aussi, peut-être, aujourd'hui, fêter la fête des mamans est une chose, mais je trouve que ça a tellement plus de sens d'honorer nos mamans et de ne pas forcément attendre une journée particulière pour leur dire qu'on les aime, certes. Mais j'irai un peu plus loin parce que les Écritures sont assez remarquables là-dessus, puisqu'on retrouve que 2 fois dans l'Ancien Testament, « Honore ton père et ta mère », mais lorsqu'on regarde dans la totalité des Écritures, c'est plutôt dans le Nouveau Testament que ce verset se retrouve, et on le retrouve plus de 5 fois, voire 6 fois dans le Nouveau Testament. Aussi, même pendant la grâce, ce n'est pas la loi, mais c'est la grâce aussi que d'honorer ses mamans et ses papas, son papa et sa maman, pardon, parce qu'a priori... Mais du coup, je voudrais vous encourager ce matin à honorer votre maman. Amen. Et du coup, c'est intéressant de trouver peut-être une raison particulière de les honorer. Et ce matin, je voudrais souligner un point important dans ce que nous devons reconnaître chez nos mamans. Et s'il y a bien une qualité que je voudrais mettre en avant qui me semble tellement importante, c'est le courage. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Maman courage », parce que je crois qu'au milieu de nous, il y a plein de mamans courage. Et des mamans courage, vous allez le voir au travers de la réflexion que je vais vous apporter, il faut être une maman courageuse. Il faut être une maman qui va se battre pour élever ses enfants, qui va lutter par moments pour leur permettre de grandir dans de bonnes conditions. Et c'est ce que je voudrais mettre en avant au travers du témoignage de Marie. Et Marie, lorsque nous pensons à cette maman, nous pensons à bien des choses. Et peut-être je voudrais commencer par une réflexion autour de Marie, parce que Marie a été une maman courage dès le départ. Peut-être bien des mamans pourraient être d'accord avec moi que nous n'avons pas besoin de connaître le nom de ceux qui ont écrit les évangiles pour comprendre que ce sont des hommes qui l'ont écrit. Parce que si Marie avait pu s'exprimer sur ce qu'elle a vécu dès le départ dans sa grossesse, je pense qu'elle nous aurait dit plein de choses, Marie. Elle aurait pu déjà nous dire, bah, écoutez, à l'époque, ce n'était pas si simple que d'être enceinte et fiancée à un homme dont il n'était pas le papa. Pas simple. Pas simple dans sa propre famille, pas simple dans son propre village, pas simple. Et peut-être, si Marie avait pu s'exprimer là-dessus, merci Seigneur pour la grâce que tu me fais, mais c'est quand même compliqué. Pas simple aussi, et vous allez le comprendre, parce que peut-être vous allez devenir parent, peut-être vous l'avez été, il y a un petit moment, mais... comprenez, quand on est parent et qu'on attend un bébé, on prépare tout. Et j'imagine, et je pense que toutes les mamans sont comme ça, elles pensent aux couleurs de la chambre, le couleur du lit, le couvre-lit, le doudou, tout qui va avec. Peut-être à un autre niveau, Marie était peut-être un peu comme ça, vous voyez, avec son fiancé, peut-être ils se sont dit avec Joseph, « Joseph, s'il te plaît, prépare-moi un beau lit, t'es charpentier, tu dois me faire quelque chose de magnifique. Tu peux même mettre des décorations, des sculptures sur ce lit et on mettra notre bébé dedans. » Et j'imagine Marie se projeter à fond dans... Et là, comprenez ce qui se passe. Il y a un édit de Rome qui arrive, César Auguste qui déclare qu'il y a un recensement. Et là, ça bouleverse tous les plans parce que, si peut-être le docteur avait dit à Marie, le docteur entre guillemets, hein, vous m'avez compris, avait dit à Marie, mais Marie, il faut que tu te reposes, t'es dans ton 9e mois. Marie, pendant son 9e mois, va faire 150 km à dos d'âne. Et je vous laisse imaginer, vous maman, qui peut-être dans votre 9e mois, vous étiez peut-être fatiguée, vous attendiez qu'une seule chose, c'est de voir la frimousse de votre bébé. Et là, on vous dit, alors que vous êtes proche de votre terme, va faire 150 km. Et ce n'est pas de nos belles autoroutes, hein, et ce n'est pas non plus le TGV, hein, c'était des routes par moments chaotiques. Et puis alors, réfléchissez à la chose, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas e-booking, hein. Il n'y avait pas non plus le téléphone. Donc Joseph, Marie font 150 km, ils arrivent à Bethléem. Moi, je ne suis pas étonné que Marie, dans la foulée, elle ait accouché, la pauvre. 150 km, imaginez-vous la tête de cette maman, après avoir parcouru 150 km, arriver à Bethléem, peut-être qu'elle a rompu les os en arrivant à Bethléem. Non, mais il y aurait de quoi, enfin, comprenez. Bien souvent, quand on veut faire accoucher un bébé, on dit, bah, allez marcher un peu. 150 km! Donc ils arrivent à Jérusalem, ils arrivent à Bethléem, ils sont tous les deux là. Marie est épuisée, elle n'en peut plus, peut-être que le travail a commencé, les contractions sont là. Moi je me rappelle quand notre fille aînée est arrivée, mais j'étais dans un stress, j'étais plus stressé que la maman. J'allais plus vite qu'elle, j'imagine Joseph, il voit Marie perdre les os, Marie dit « Vas-y Joseph, va me trouver quelque chose, je ne peux plus bouger ». Puis Joseph, forcément, il va courir partout, il va aller dans les hôtelleries, il va voir à droite, à gauche, puis on le sait, il n'y a pas une chambre de libre. Génial. Et j'imagine le stress monté dans Joseph qui sait que sa femme va accoucher sous peu. Et là, bien sûr, bah, une seule solution, il y a un habitant qui propose, j'ai une étable. Puis on est super pragmatique, messieurs. On trouve un abri, on est content. Mais imaginez-vous la tête de Marie quand Joseph va la voir. Il va lui dire, j'ai trouvé un endroit. Marie, oh, super, génial, travail et tout. Et quand Joseph lui dit que c'est une étable, vous imaginez la tête de Marie, peut-être elle était contente de trouver un abri, mais quand vient même si les douleurs sont là par moments, on ne pense plus qu'à ça forcément. Moi, je me rappelle que quand même ma femme avait une bonne dose de réalité, quoi. Si je l'avais amenée dans une étable tout en ayant des contractions, ça n'allait pas bien se passer, hein. Bon, j'imagine la tête de Marie avec ses contractions, Joseph qui l'amène à l'étable, et là, à l'étable, et Marie, j'imagine, mais tu, à l'étable. Et puis j'imagine Joseph en train de dire, mais le propriétaire m'a promis qu'il allait changer le foin. Ouais. Je me suis mis à la place de Marie, en train peut-être de se dire quelque part, mais c'est là que mon bébé va arriver. Parce qu'une maman, c'est au fond d'elle, c'est dans ses tripes de vouloir le meilleur pour son bébé. Et je pense qu'il n'y a pas une maman, peut-être au milieu de nous ce matin, qui serait capable de dire, mais je ne veux pas le meilleur pour mon enfant. Si une maman veut le meilleur pour son enfant. Et combien ça a dû être quand même compliqué pour Marie. Peut-être qu'il avait prévu plein de choses, qu'il s'était fait plein de rêves, peut-être, quelque part. Et qui se retrouve à 150 km de son petit nid où elle avait tout préparé pour son bébé, dans une ville qu'elle ne connaît pas, dans une étable, et son bébé arrive dans ce contexte-là, et peut-être dans son cœur, peut-être le cœur lourd en train de dire, mais c'est là-dedans que mon enfant va naître, dans une étable au milieu des animaux. Il ne pouvait pas y avoir mieux pour mon enfant quand même. N'était-il pas possible d'envisager autre chose pour mon bébé? Vous savez, des fois, les choses ne se passent pas comme on voudrait qu'elles se passent. Et la réalité, la profonde réalité de cette histoire, c'est que, autant le plan de Marie a peut-être été un peu bousculé, autant c'était malgré tout le plan de Dieu. Non ? Fallait que Jésus naisse à Bethléem. Et il fallait qu'il revête une condition d'humilité. Il ne fallait pas qu'il naisse dans un palais, il ne fallait pas qu'il naisse dans une maison confortable, ce n'était pas l'objectif. Et je vous dirai une grande vérité ce matin. Si Jésus était né dans une maison, comme la plupart des enfants naissaient à l'époque, nous ne parlerions peut-être pas de cette naissance aujourd'hui. C'était le plan de Dieu. Et par moments, les choses ne se passent pas comme nous voulons. Par moments, on projette les choses et on dit, mais on aurait voulu que ça se passe différemment, autrement. Combien c'est difficile, surtout pour une maman, quand les choses ne se passent pas comme on attendait qu'elles se passent. Tellement compliqué, quand par moments, nos désillusions, nos illusions tombent. Et Dieu permet ça dans nos vies. Je vais même aller plus loin parce qu'il touche un point très sensible de ce qu'une maman peut vivre par moment dans sa vie. quand une maman à la naissance peut perdre aussi son bébé. Et combien c'est dur et combien il y a de questionnements autour de ce départ. Et ce matin, je n'ai pas un message de consolation réellement à vous donner, mais j'ai peut-être une explication à laisser sur votre cœur, et c'est ce que dit Ésaïe chapitre 57, verset 1er, on va le mettre. Et j'ai mis deux versions pour bien comprendre les choses. Le juste périt et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. Et j'ai préféré la version Semeur parce qu'elle est beaucoup plus claire. Des innocents périssent. Et peut-être une maman et tu as perdu ton bébé à la naissance. Mais nul ne s'en soucie et des hommes de bien sont enlevés sans que nul ne prenne que les justes sont enlevés pour éviter le malheur à venir. Il y a par moments le plan de Dieu même dans le fait de perdre un enfant au départ. Aussi dur que cela puisse paraître, et parce que les choses des fois ne se passent pas comme nous voudrions qu'elles se passent, Dieu nous laisse un message, une compréhension de pourquoi l'innocent est enlevé. Et le mot qui est employé, c'est pour éviter le malheur à venir. Alors ce n'est peut-être pas une consolation et je ne viens pas avec ce verset pour consoler ce matin parce que celui qui console c'est le Seigneur et peut-être au travers de sa parole il y a déjà une compréhension de pourquoi. Mais je veux croire aussi que Dieu ne veut pas se limiter au pourquoi, il veut guérir aussi. Et peut-être il y a des mamans pour qui les choses ne se sont pas passées comme on aurait voulu. Et ma conviction, c'est que Dieu aime les mamans et sait aussi restaurer leur cœur. Il sait et il veut restaurer leur cœur. Amen. Maman courageuse. Deuxième aspect que je voudrais partager ce matin, il est en lien avec un passage encore de Marie. Quelques années plus tard, nous sommes 12 ans plus tard, Jésus et ses parents viennent au temple. Et c'est la tradition, le texte dit, c'est la tradition, il fallait que Jésus rentre dans une nouvelle dimension spirituelle. Il avait 12 ans cette fois-ci et il pouvait rentrer dans le temple et aller un peu plus loin dans sa formation. Et tout se passe bien jusqu'au départ de Jérusalem. Joseph et Marie descendent à Jérusalem, ils passent le temps qu'ils avaient besoin de passer à Jérusalem, puis il est temps de repartir sur Nazareth. Et là, dans ce contexte-là, les parents de Jésus, Joseph et Marie, sont persuadés qu'il fait partie du groupe. Ils sont persuadés que leur fils est dans le groupe, ils sont descendus en groupe de Nazareth à Jérusalem, et là c'est tout un convoi, et Joseph et Marie sont persuadés que leur enfant est là. Aussi, ils ne se posent pas trop de questions lors du moment de départ. Seulement, pendant le voyage, ils se disent, on va quand même essayer de retrouver Jésus. Et pendant le voyage, ils se rendent compte que Jésus n'y est pas. Ouais. Il n'y est pas. Et quand ils s'aperçoivent qu'il n'y est pas, ils vont chercher et ils vont perdre une journée pendant le trajet. Et quand ils réalisent que Jésus n'est pas dans le groupe, ils décident de retourner à Jérusalem. Et une fois à Jérusalem, écoutez-moi bien, ils vont chercher Jésus pendant 3 jours. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis mis à la place de Joseph et Marie. J'ai cru devenir fou. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais 3 jours sans savoir ce qu'est devenu votre enfant, il y a de quoi être inquiet. Même il y a de quoi devenir fou. Fou d'inquiétude. Mais où est-il? Qu'est-ce s'est-il passé? Où il a dormi? Où il a mangé? Qui il a récupéré? Qui s'en est occupé? Parce que là, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait rien. Quand votre enfant était perdu, il était perdu. Aussi, quand Joseph et Marie rentrent sur Jérusalem, ils retournent à Jérusalem. Le terme est fort. On va passer à la vignette suivante. Le mot est fort. Quand Marie est... C'est Marie là qui s'exprime. Quand les parents virent Jésus, parce qu'ils vont le retrouver au bout du 3e jour, ils vont le retrouver au temple et ils vont le voir au temple. Ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, tu m'étonnes aussi. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec. Il y a de quoi. 3 jours. 3 jours à se poser la question, où est Jésus? À le chercher parmi les là où ils ont dormi, à le chercher parmi des copains qu'il avait peut-être rencontrés, à faire une enquête pour essayer de le retrouver. Et pendant 3 jours, vous vous posez la question, mais qu'est-ce que tu fais? Où est-il? Où se cache-t-il? Qu'est-ce qu'il est devenu? Mais c'est horrible. faut avoir le cœur bien accroché, hein. Non ? Les mamans, 3 jours sans savoir ce qui est devenu votre enfant. Alors du coup, de ce texte, moi j'en ai retiré plein de choses. La première, et peut-être vous allez vous reconnaître là-dedans, souvent j'ai eu dit à mes filles, mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Et vous voyez que Marie a quelque chose près. Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte ? Je sais pas, c'est quelque chose qui nous arrive à tous, parents, d'un moment donné, de se retrouver avec un comportement, une attitude de notre enfant qu'on ne comprend pas. Aussi, je me suis retrouvé souvent dans la situation, mais pourquoi t'as fait ça ? Et avec le sentiment que votre enfant est bizarre. Je ne sais pas, vous reconnaissez là, parent ? Rassurez-moi, parce que on se dit, mon enfant est bizarre, qu'est-ce qui lui est passé par la tête ? Et puis quand je lis le passage de Marie, quand elle dit à son enfant, mais pourquoi as-tu agi de la sorte ? Je suis un peu rassuré, parce qu'a priori, c'est tous les enfants qui sont pareils. Si Jésus l'a fait, ne me racontez pas d'histoire, vos enfants l'ont fait aussi. Hein. Donc, je trouvais ça plutôt rassurant de me dire qu'il n'y a pas que mon enfant qui est bizarre des fois dans ses réactions et dans ses attitudes. Cela dit, ok, on va plus loin. J'aime Marie dans son comportement et dans son attitude. Et c'est peut-être ça que je voudrais soulever parce que ce serait difficile pour nous de définir l'attachement qu'a une mère vis-à-vis de ses enfants. Quand on est papa, on comprend certaines choses, on est attaché à nos enfants, mais une maman, combien l'attachement est fort, le lien est étroit, la relation mère-enfant, elle revêt d'un autre niveau, et nous parents, nous pères, combien par moments il est difficile de comprendre ce qui se passe entre une mère et son enfant, tellement le lien est fort, tellement le lien est étroit. Aussi, quand Marie parle, on ressent ça, quand elle dit à un moment donné, mon enfant, vous pourrez mettre ma chair, mes entrailles. On sent toute le désespoir de Marie qui s'exprime, un relâchement de pression, mais d'angoisse, mais de violence aussi. Parce que c'est violent de perdre son enfant et de le chercher pendant 4 jours. C'est extrême. Aussi Marie, quand elle parle à son fils, il y a... Oh, combien on est vulnérable. Quand on devient parent, il n'y a pas à dire. Autant c'est merveilleux les enfants, autant c'est une joie, c'est un bonheur, c'est quelque chose d'inexprimable. C'est tellement, tellement c'est bon, mais autant on devient vulnérable. Hein, les mamans ? Oui, on devient vulnérable. C'est notre chair, là. Et combien, peut-être, par moment, nos enfants nous poussent dans des extrêmes. Des fois, ils sont pas sages, certes, ok. Je me rappelle lorsque notre petite Colline, à un moment donné, on lui a suspecté une méningite. Et nous sommes allés à l'hôpital, et alors que le médecin nous disait « on suspecte une méningite, il va falloir lui faire une ponction lombaire. » 2 ans. On est vulnérable, mes amis. On est vulnérable. Et nos enfants le savent. Hein ? Et je trouve que Marie, elle a le juste équilibre. Elle vient, elle voit son fils, elle lui parle. Il n'y a pas un mot de trop. Et par moments, lorsque notre vulnérabilité s'exprime, elle déborde. Et ce qui m'amène à dire que pour être une maman courage, on a besoin de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Hein. On a besoin que le fruit du Saint-Esprit s'exprime pour être toujours calme. Quand notre vulnérabilité peut-être des fois a besoin de s'exprimer pour être toujours posé, pour avoir le témoignage qu'il faut toujours, pour ne pas avoir le mot de trop ou le geste de trop. Et je trouve que l'attitude de Marie est remarquable. Comprenez, c'était violent perdre son fils et le chercher pendant 4 jours, sans savoir où il était, ce qu'il a pu devenir, sans savoir se dire qu'il a peut-être été enlevé. Tellement de choses peuvent passer dans la tête d'une maman et arriver en face de son fils et lui exprimer les choses avec tellement de justesse et lui dire, mais mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte ? Elle, quelque part, elle exprime quelque chose à son fils, elle exprime quelque chose à Jésus pour lui faire réaliser que c'est bien de prévenir aussi ses parents. Jésus est dans l'apprentissage, hein, ne voyez pas un péché là-dedans. Hein. Jésus est dans l'apprentissage. Et Marie apprend aussi certaines choses à son fils. Elle lui dit, mais tu ne peux pas agir comme ça. Tu dois nous prévenir. Tu as 12 ans maintenant. Tu dois nous tenir au courant. Et en même temps, et je trouve ça tellement beau que Marie, à la fin de ça, est étonnée de la réponse de Jésus. Mais savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ? Joseph et Marie sont un peu... oui. La Bible dit qu'ils n'ont pas forcément compris tout ce que Jésus voulait dire à ce moment-là. Mais pourtant... Il dit que Marie notait tout ça dans son cœur. Je veux nous encourager en tant que parents et vous en tant que maman à peut-être demander au Seigneur de nous aider à avoir l'équilibre dans l'éducation de nos enfants. Il faut être courageux, il faut être à la maîtrise de soi pour être le meilleur témoignage pour nos petits. Amen. Et vous remarquerez que Même grand, qu'il est bon aussi d'avoir la maîtrise de soi. Alors c'est bon pour toutes les mamans, c'est bon aussi pour tous les papas ce matin. Amen. Il nous faut du courage aussi, c'est mon dernier point ce matin, pour laisser partir nos enfants. Troisième étape, nous retrouvons une nouvelle fois Marie et Jésus, qui sont dans un contexte ou combien différents, 18 ans plus tard, Jésus et Marie se retrouvent au mariage de Cana. Nous connaissons ce passage par cœur, tellement on l'a prêché au mariage. Hein. Mais cela dit, nous retrouvons cette maman et ce fils à ce mariage. Et là, il y a une conversation qui va prendre place, conversation qui m'a souvent laissé dans l'interrogation, dans la compréhension profonde de ce qui se passe. Souvent, et c'est le texte, on va l'afficher dans quelques instants, ce texte a été assez énigmatique. Regardez, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, et elle parle à Jésus, ils n'ont plus de vin. Et on a un instant, là, il faut vraiment comprendre qu'il y a un message subliminal qui est en train de passer. Vous savez, c'est ce genre de code qui passe entre une mère et un fils. Il y a une telle intimité entre une maman et son fils qu'il y a plein de choses qui passent. Et nous, on ne comprend pas forcément, mais visiblement, lui, Jésus a compris, et Marie aussi. Aussi, Jésus lui répond, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Mon heure n'est pas encore venue. Verset 5, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Je me suis souvent interrogé sur le fond de cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et j'ai lu plein de trucs dessus, puis je n'étais pas forcément satisfait. Et en me positionnant, et comprenez, dans le relationnel entre une mère et un fils, alors c'est compliqué pour un papa d'être une mère, mais on essaye quand même, hein. Et je me suis dit, y a peut-être une raison. Et en effet, comprenez ce qui se passe. Marie n'est pas simplement en train de dire, « Ah, il manque du vin, Jésus !» Elle est en train de dire à Jésus, « Fais quelque chose !» C'est clairement ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train d'encourager Jésus à faire quelque chose parce que Marie... Elle connaît son fils, elle connaît son historique. Elle sait depuis le départ que Jésus n'est pas un enfant, n'est pas un homme comme les autres. Elle sait les enjeux, elle sait même, l'ange lui a dit, mais il sera appelé fils de Dieu. Elle ressasse ces choses sur son cœur, je l'ai dit tout à l'heure, elle a noté tout ça, elle a conservé tout ça sur son cœur. Aussi, quand Marie parle à son fils, elle sait que son fils peut faire quelque chose. Elle le sait. Alors je trouve ça tellement beau parce que quelque part, elle a foi dans son fils. Et c'est important que les mamans croient en leurs enfants, n'est-ce pas ? Alors, je la trouve remarquable, parce qu'elle croit vraiment en son fils, quand bien même son fils n'a rien manifesté jusqu'à présent. C'est ça aussi, avoir foi en ses enfants. C'est voir le potentiel, et je parle de potentiel, que l'on ne voit pas. Et bien souvent, il n'y a guère que les mamans qui, des fois, sont capables de voir quelque chose dans leurs enfants que nul autre voit. Et Marie, c'était son cas. Elle voyait des trésors dans son fils, elle savait qu'il y avait quelque chose de glorieux sur son fils, aussi elle l'exprime. Elle n'est pas en train de faire une supposition à Jésus, elle est en train de dire à Jésus, permettez-moi de traduire ça comme ça et littéralement comme ça, fais quelque chose. C'est ça qu'elle est en train de dire à Jésus. Elle est en train de dire et pousser Jésus, et en même temps comprenez, bon ça fait 30 ans qu'on m'annonce que tu vas faire des choses glorieuses, peut-être il serait temps de t'y mettre. Non ? Et en même temps, je me mets à la place de cette maman parce que, quelque part, une maman, elle a envie de voir son fils ou son enfant exploser dans ce qu'il est, dans son talent. Et je me dis, est-ce que je pourrais être fier de toi maintenant? Est-ce que tu vas, quelque part, révéler qui tu es réellement? Parce que, quelque part, ça fait 30 ans qu'il y a plein de questions qui tournent autour de ta personne, de qui tu es, parce que cette histoire a suivi Jésus. Même jusqu'à ses 30 ans. Et que Jésus révèle enfin qu'il est fils de Dieu, quelque part, ça arrangerait Marie. Donc, fais ce miracle! Oui, seulement, Jésus, lui, il est dans une autre perspective. Et il va recadrer les choses parce que, comprenez, si Jésus est le fils de Marie, Marie n'est pas la mère de Dieu pour autant. Et ça, c'est très important de le comprendre. Parce que si Marie pense avoir une quelconque autorité sur Jésus, et elle l'a, elle aurait très bien pu demander à Jésus, « Jésus, va me chercher du vin, va me chercher du vin, va le prendre chez le voisin. » Jésus l'aurait fait. Comprenez ce qui se passe. Si Marie avait demandé à son fils de faire quelque chose, son fils l'aurait fait. Seulement, elle ne parle pas à son fils, elle parle à Dieu. Et elle pense que Dieu va lui obéir, parce que ce que Marie est en train de demander, c'est un miracle. Elle demande une action de Dieu. Vous me suivez toujours là ? Aussi, c'est là que le problème est dans ce passage-là. C'est que si Marie avait demandé à son fils d'aller chercher du vin n'importe où, Jésus l'aurait fait probablement parce qu'il honore sa mère, parce qu'il est soumis à sa maman. Seulement, ce que demande Marie, elle demande à Dieu d'intervenir et quelque part, elle se positionne en maman, en mère de Dieu, là. Jésus ne laisse pas passer ça. Oh non ! Il lui dit d'ailleurs, « Femme !» Alors je vous rassure, hein, parce que dans le contexte, c'était vraiment pas rude d'appeler femme. C'était même, il y avait un aspect très affectif. Mais peut-être pour nous, culturellement, femme. Ok. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Jésus replace les choses, il dit, mais Marie, je suis ton fils. Mais tu n'es pas la mère de Dieu. Et du coup, Jésus replace les choses dans leur contexte et il met Marie à l'écart d'une certaine façon par rapport à son ministère et ce qu'il est, parce qu'il est à la fois homme, il est à la fois Dieu, il est 100% homme, il est 100% Dieu. Seulement, Marie n'a pas autorité sur l'essence divine qui est en lui. Aussi, Jésus remet un cadre. Là, tu me demandes d'être Dieu. Tu t'imposes à moi comme une mère. Or, tu n'as pas autorité sur la personne de Dieu en moi. Et voilà ce qui se passe dans ce passage. Marie, sans le vouloir, est dans une forme d'ingérence. Ce n'est pas à elle de décider si Dieu doit intervenir ou pas. Ce n'est pas à elle de décider comment les choses doivent se faire. Ce n'est pas à elle et ce n'est plus à elle d'intervenir d'une façon aussi direct avec son fils. Aussi, regardez la réaction de Marie. Sa mère dit au serviteur, « Ok, faites ce qu'il vous dira. » Et Marie prend du recul dans l'histoire et laisse Jésus gérer les choses comme il l'entend, parce que Jésus est en directe connexion avec le Père qui lui ordonne les choses. Ce passage m'a beaucoup parlé sur l'équilibre et la distance que nous devons par moment avoir, parce que, en tant que parents, combien c'est difficile de laisser partir nos enfants. Combien c'est difficile, à un moment donné, de se positionner et de ne pas rentrer dans une forme d'ingérence. Tout à l'heure, nous en avons discuté avec les pasteurs, et nous avons trouvé l'image tellement intéressante de dire que, quelque part, l'ingérence ou la gérance s'arrête au mariage. Il y a une belle symbolique. Comme un « maintenant, laisse partir ton enfant ». Et puis je vais aller plus loin dans la réflexion parce que, involontairement, parce qu'on veut le meilleur pour notre enfant, par moment, dans notre façon d'agir, nous ne les amenons pas à suivre le chemin que Dieu veut qu'ils suivent. Voyez ce que je veux dire ? Une ingérence, comme Marie pouvait le faire, amener Jésus dans une situation délicate Et moi, je dis, par moments, il faut avoir la sagesse de dire, je te laisse partir, mon enfant, parce que Dieu a un plan pour toi et il veut s'accomplir en ta vie. Aussi, j'apprécie souvent les contacts que j'ai avec mes parents et les réflexions que j'ai. Et autant mes parents, par moments, ont agi en parents, ont été directifs dans leurs actions et dans leurs décisions vis-à-vis de moi, et j'étais enfant, autant aujourd'hui, on est rentré dans des échanges et des discussions, et ils ne m'imposent plus rien, et on est vraiment dans l'échange. Et je trouve ça tellement pertinent qu'à un moment donné, il y ait ce juste équilibre relationnel qui fait que l'enfant ou l'adulte, parce que Jésus avait 30 ans, puisse enfin rentrer dans le projet de Dieu. Et je voudrais attirer notre attention parce qu'il faut du courage. Parce que j'entends encore les paroles de Marie résonner. Mon enfant ! Oui, sauf qu'à ce moment-là, ce n'est plus son enfant, mais c'est le Fils de Dieu qui rentre. Et à partir de ce jour-là, le ministère de Jésus va prendre une autre ampleur. Et Jésus va rentrer dans le projet, le plein projet de Dieu pour sauver l'humanité, jusqu'à ce que Marie, même à un moment donné, accepte de voir son fils mourir sur la croix. Ça va très loin. Ce matin, je voudrais vous encourager, maman, à être courageuse. À un moment donné, comme Marie va le faire là dans ce passage-là, faites ce qu'il vous dira. Il est grand. Il est grand. Je vais vous encourager à élever vos enfants, à être ces mamans avec le juste équilibre, à être ces mamans revêtues du Saint-Esprit, revêtues du fruit de l'Esprit, pour être dans des justes mesures dans l'éducation de nos enfants. Maman, je vous inviterai à être courageuse, aussi quand les choses ne se passent pas comme vous voulez. Et à comprendre que peut-être par moment, vous êtes enfant de Dieu, il y a peut-être un projet qui vous dépasse et qui nous dépasse bien souvent dans les décisions que Dieu prend pour nos vies. Que Dieu vous bénisse, maman. Maman courageuse. Amen. Seigneur Jésus, nous venons devant toi simplement. Et je voudrais prier pour toutes les mamans ce matin. Et dans mon cœur, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai une pensée pour des mamans pour qui les choses ne seront pas passées comme elles auraient voulu que ça se passe. Je prie pour qu'un baume vienne se poser sur leur cœur ce matin. Et que pour celles pour qui les choses sont restées profondément ancrées dans leur chair au point d'en souffrir encore aujourd'hui, j'appelle la guérison sur les cœurs. Seigneur, viens bénir toutes les mamans ce matin. Viens les aider à être courageuses. Aide-nous à les honorer pour le courage qu'elles déploient sur nos vies. Des qualités de patience, de persévérance, d'explication par moment, d'échange. Merci pour les qualités que tu as mises dans les mamans, qui ne sont pas toujours dans les papas. Et nous te remercions pour cette différence. Et pour les qualités que les mamans apportent dans un foyer, dans l'éducation, et pour cet équilibre merveilleux que tu as créé au travers de la famille. Viens bénir toutes les mamans, les restaurer. Viens les relever si elles sont fatiguées, peut-être épuisées par la charge, combien des fois elle est lourde et difficile. Tu es celui qui renouvelle les mamans. Tu es même celui qui guérit les mamans. Tu es celui qui les soutient, qui les porte. Que ton nom soit loué et béni, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et puis je pense au papa aussi. Dieu vous bénisse aussi. Bonne journée.